sonnait. Le ciel était pur et chaud, le soleil, et bonne la brise qui arrivait des monts enveloppés de neige. Sous le souffle des cimes, ondulait, ruisselait, claquait, dansait, chantait drapeaux, étendards, fanions, oriflammes, plantés tout autour du terrain plat de Bagrami, dans le voisinage de Kaboul. À 6000 pieds d'altitude, allait se jouer le premier bouscatchi du roi. Le champ était très vaste, mais sans démesure. Les cavaliers ne pouvaient pas s'échapper et s'évanouir pendant des heures au fond d'espace informe, ainsi qu'ils avaient coutume de le faire dans leur steppe natale. Ici, les spectateurs étaient assurés de ne point perdre de vue leur galop et leur combat. Au nord, les maisons d'un village en torchis, fraîchement repeintes de tons rose et bleu, semblaient une enluminure sur le fond des montagnes. À l'ouest, s'étirait une longue muraille, à l'est, une file de camions bariolés aux teintes les plus éclatantes formait une autre paroi. Enfin, vers le midi, juste derrière la route, s'élevait une colline. Tout cela, murs, camions, toits plats des maisons, replis du sol, tout était recouvert et comme submergé par un flot d'étoffes lâches, tuniques, braies, franges de ceinture, pantes, turbans, qui bouillonnaient au gré de la brise. En vérité, on eût dit à voir cette multitude qu'il ne restait plus à Kaboul ni un jeune homme, ni un vieillard. Les trompettes sonnaient. Leur chant aigu, joyeux et aussi ailé que le vent tenait en alerte des milliers et des milliers de gens qui, pour la plupart, avaient fait à pied, le matin, dans la poussière, les quatre lieues qui séparaient la capitale de Bagrami. Et il en venait toujours d'autres. Des colonnes poudroyantes traversées de raies de soleil suivaient et précédaient leur cheminement. Quand, enfin, ils touchaient à la colline située au sud de la route, leur soif était grande. Ils allaient tout de suite vers les chaïkanas éphémères ou bien vers les tréteaux chargés de raisins, de melons, de pastèques et de grenades que les marchands astucieux avaient dressés la veille. Les moins pauvres appelaient à grands cris l'un des bachas qui circulait à travers la foule avec des narguilés pour l'usage desquels on payait bouffée par bouffée. Les trompettes sonnaient. Face à la colline, de l'autre côté de la route qui en longeait la base, trois pavillons de toile gaie et de bois clair construits côte à côte à l'occasion de la fête empiétaient sur le terrain de jeu. Le peuple, tout imprégné de souvenirs nomades, leur donnait le nom de grandes tentes. De hauts dignitaires afghans vêtus européennes et coiffés de coulasses occupaient l'observatoire de droite. Les étrangers d'importance emplissaient la tente de gauche. Par contre, dans la tente centrale où un grand fauteuil cramoisi se dressait jusqu'au milieu, il n'y avait encore personne. Elle était réservée au roi. À travers cet espace vide, les visages au bonnet d'Astrakhan se tournaient sans cesse vers les autres étrangers. On comptait parmi ceux-là des hommes qui personnifiaient le savoir, la richesse et la force des nations les plus puissantes du monde. Les trompettes sonnaient, les oriflammes dansaient. Deux soldats passèrent devant les tribunes d'honneur. Ils traînaient la dépouille sans tête d'un grand bouc. Des coulées de sang filtraient du cou tranché. Sur le toit des villages, sur le faîte des camions, sur le flanc de la colline, courut la même clameur, avide et rauque. Les soldats déposèrent la masse velue dans un trou à fleurs de terre, creusé juste en face et à faible distance du fauteuil cramoisi toujours vide. Sur la gauche de ce trou, et tout près lui aussi de la tente royale, brillait, tracé à la chaux vive, le but, le cercle de justice. Et, plus près encore, le long des trois pavillons d'honneur, baie un vaste fossé, profond, aux parois bétonnées, presque verticales, destiné à protéger le souverain et ses hôtes. Ainsi avaient prescrit les conseillers venus des steppes. Ils savaient, eux, qu'une fois possédés par les démons de leur jeu, les Chobendos mongols ne tenaient plus à rien ni personne pour sacrer, pas même le roi, en l'honneur de qui pourtant ils allaient risquer leurs os. Les trompettes sonnaient, plus haut, plus clair, un tourbillon de poussière s'engouffra sous les dais rayés de blanc et de rouge. Sur la route, derrière les pavillons, une file de voitures s'arrêta. des armes criquetèrent, la foule acclama, et Zaher Shah, escorté de sa suite, pénétra sur la tente royale, grand, mince, rassé, vêtu à l'européenne, avec sur la tête une koula de l'astrakhan le plus précieux. Il alla lentement jusqu'à la balustrade. Alors, sur le plateau encadré de soldats casqués, de lanciers à cheval dont les armes portaient à leur pointe des fanions écarlates, cernés de masses humaines, de couleurs, de rumeurs, baignés d'air et de lumière, dominés par les chaînes des grandes montagnes afghanes, se mit en marche la parade qui préludait au Bouskatchi royal. Au fond de la plaine, du côté où se trouvait le village azur et rose, une troupe de cavaliers à peine visible s'ébranla pour avancer avec une lenteur solennelle vers la tente du souverain. En tête venaient trois trompettes formées en triangle, et de leur cuivre, une marche joyeuse et vive, comme un pas de jeune fille, s'envolait vers le ciel. À quelques pas, retenant son pur sang arabe avec une superbe aisance, chevauchait seul un jeune colonel, parent du souverain, qui avait la charge de diriger et contrôler toutes les péripéties du jeu. Plus loin, venaient côte à côte trois cavaliers chenus, mais qui avaient de la selle une telle habitude qu'ils s'y tenaient comme sur un coussin moelleux. Chacun d'eux avait amené l'une des équipes rivales. Chacun d'eux était le chef de Bouskatchi de sa province, Maïmana, Mazar-i-Sherif, Katagan. Les seuls dans l'Afghanistan où, par tradition immémoriale, les bêtes étaient assez résistantes, rapides, entraînées, et les hommes assez adroits et vigoureux pour se mesurer devant le roi. Les chefs de Bouskatchi étaient vêtus de chapan en soie verte à rayures blanches. Derrière eux arrivaient les trois équipes, forte chacune de 20 cavaliers, déployés sur une seule ligne, un seul front, pas à pas, lente foulée par lente foulée, grandissaient et prenaient leur taille et leur relief véritable, 60 chopendos, les meilleurs, les plus célèbres des steppes, choisis à travers 100 épreuves épuisantes et sauvages, montés sur les plus beaux chevaux des trois provinces. Les chopendos n'étaient point ce jour-là habillés ainsi qu'à l'ordinaire de chapan. Chaque équipe avait son costume propre, conçu pour le Bouskatchi royal. Ceux du Katagan portaient des blouses blanches et vertes, enfoncées dans de larges braies gris fer, qui disparaissaient dans des bottes noires montant au-dessus du genou. Sur ceux de Mazar-i-Sherif, les juste au corps et les culottes étaient couleur de rouille, et les bottes en cuir fauve ne venaient qu'au mollet. Quant aux cavaliers de Maïmana, ils étaient chaussés de la même manière, mais leur casaque, d'un marbre foncé, était plus courte et plus ample. Sur leur dos s'étalait, comme une étrange étoile, la peau écartelée d'un agneau d'astrakhan blanc. Sur la tête, les chopendos avaient tous une toque bordée de fourrure grossière, à coiffe pointue, qui, selon les équipes, était de haute laine ou de peau brute. Ainsi vêtus, ainsi ornés et portés par des bêtes splendides dont les robes avaient toutes les nuances, depuis le noir le plus pur jusqu'au blanc sans tache, les 60 héros des steppes, cravaches au poing, étirés sur une seule ligne, traversaient lentement derrière les trompettes qui ne cessaient de sonner et derrière leur vieux chef, toute la largeur du terrain de Bagrami. Chacun de leurs visages semblait buriné dans le bois ou découpé dans les cuirs les plus rudes, hâles jaunes, lèvres cruelles, pommettes violentes, et les yeux effilés des oiseaux de proie. La ligne des 60 chopendos arriva en face de la tente royale. Les cavaliers arrêtèrent leurs chevaux et se redressèrent sur leurs selles. À gauche, 20 blouses blanches et vertes. Au centre, 20 juste au corps couleur de rouille. À droite, 20 casaques marrons frappés d'une étoile irrégulière d'astrakhan blanc. Katagan, Mazar-i-Sherif, Maïmana. Parce qu'on le tenait pour le meilleur chopendos de sa province, Rose était placé au centre des gens de Maïmana. Mais, quoique épaulé, prolongé sur sa droite et sur sa gauche par une haie de torse dont chacun lui était familier jusque dans son odeur au combat, Rose, habillé de la même casaque, coiffé du même bonnet et aussi pétrifié que ses compagnons, Rose avait le sentiment d'être en dehors, au-dessus d'eux, et comme nourri d'un autre sang, Leur satisfaction brute, leur vanité comblée ne lui inspirait que dégoût. Quoi ? Il suffisait à leur gloire de parader tels des singes savants, une gloire à 60. Ne serions-nous que deux, ce serait encore un de trop, pensait Rose. Debout, la main droite à sa coulade astrakhan gris, Zaïrcha saluait le cavalier. Près de lui, contre la balustrade, reposait l'étendard que le vainqueur, l'ayant reçu de ses mains, ramènerait pour un an dans sa province. « Il est à moi !» se dit Ourose. Et il crut voir le torse et le visage de Toursen, son père, ombragé, effacé par les plis d'un trophée comme jamais n'en avait connu la steppe. Zaïrcha prit place dans le fauteuil cramoisi. Le rictus qui servait de sourire à Ourose découvrit ses dents aiguës. C'était la fin des singeries. Le premier mousquetier royal commençait. L'engagement fut d'une grave lenteur. En silence et pas à pas, les 60 cavaliers enveloppèrent le trou qui contenait la bête sacrifiée. Quand ils s'arrêtèrent, elle était cernée d'un anneau compact. Chaque tiers du cercle portait la couleur d'une équipe, le blanc et vert du Katagan, le marron de Maïmana, la rouille de Mazar-i-Sherif. Cette étrange et immense corolle poussée à fleur de terre demeura un instant tout à fait immobile. Puis d'un seul coup, les lanières lestées de plomb se levèrent comme un peuple de reptiles sifflant au-dessus des bonnets de fourrure. Un hurlement d'une sauvagerie démente, alliage de toutes les clameurs, déferla sur le plateau et la dépouille animale fut recouverte par la masse des hommes et des bêtes. Par une transformation si soudaine que personne n'en avait pu saisir l'instant, la troupe ordonnée et solennelle n'était plus que tumulte, frénésie, prodigieux tourbillon, huées, invectives, menaces inarticulées. Cravaches qui cinglaient, déchiraient naseaux et visages, flux et reflux, chevaux cabrés de toute leur hauteur sur l'enchevêtrement des corps et des poitrails, chopandos accrochés, suspendus au flanc de leur monture, le front dans la poussière, les ongles griffants, raclant le sol pierreux afin de trouver le bouc décapité et le saisir et l'arracher. Mais à peine l'un d'eux y avait-il réussi que d'autres mains, aussi féroces, aussi puissantes, lui dérobaient la carcasse. Elle passait, repassait par-dessus l'encolure des chevaux, devant leurs yeux, sous leur ventre, et retombait à terre. Alors, comme du fond d'une onde bouillonnante, surgissait un flot nouveau de poitrails, de crinières, de bonnets, de cravaches qui dispersaient le précédent, et à son tour devenait une haute lame faite d'étoffes, de corps, de coups, et sur elle-même enroulée. Seul un cavalier qui portait sur son dos l'insigne en astrakhan blanc de Maïmana échappait à la frénésie. Il se tenait juste au bord de la mêlée, effleuré par elle, mais de manière à ne pas être aspiré par l'appel, le souffle du tourbillon. Ah, les voilà plus enragés encore que chez nous, pensait Ourose en suivant de ses yeux cruels l'assaut qui affrontait les Chopandos de la steppe sur le haut plateau de Bagrami. Et ici, comme là-bas, cette rage n'est que force en vain dissipée. Ici, comme là-bas, celui qui finira par s'enfuir avec le bouc sera rejoint sans tarder. Ourose fit reculer Géol. Le tourbillon refluait de leur côté. Et ils le savent, tout aussi bien que moi, se dit Ourose. Ils suivaient du regard les chocs et les soubresauts, les avancées et les reflux, les creux et les crêtes, où ces dizaines de cavaliers se débattaient, pris au même piège et au même délire, et dont l'odeur mêlée à celle de la poussière devenait plus âcre d'instant en instant. Et Ourose pensa : je me trompe, ils ne savent plus rien. Déjà les vêtements d'apparat étaient souillés de sueur, d'écume, de sang. Et déjà les visages qui jaillissaient entre les épaules des hommes et les crinières des chevaux maculés par l'argile du sol et les sillons des cravaches, masques dilatés et figés dans un étrange rictus de tourment et de bonheur, n'exprimaient plus rien que l'instinct de violence, dénudé à l'extrême. Et Ourose se dit encore, eux, ils jouent pour jouer, moi, c'est pour gagner. Il dut à ce moment et d'un geste brusque retenir Géol qui s'était porté en avant. Les talons secoua la tête. Rose lui caressa lentement l'encolure et dit à mi-voix : oh Géol, tu voudrais jouer toi aussi ? Pas encore. Tu dois apprendre à te garder pour la seule victoire, la dernière. Cela est difficile quand le sang est noble. Je m'en souviens. Rose continuait de surveiller chaque mouvement, chaque pli et ressac de la mêlée toujours plus furieuse. Et d'autres luttes passaient devant le regard de sa mémoire. Et il voyait un tout jeune homme, coiffé d'un simple turban parce qu'il n'avait pas droit encore à la toque du Chopin d'Oz, dépassé en acharnement et en rage tous les cavaliers. « Et c'était moi, ô géole !» dit Ouroz à son étalon. Pour un instant, il ressentit et regretta cette violence brute, cette barbare félicité qui se repaissait d'elle-même et sans raison ni objet donnait au sang des hommes tout son feu. Géole, à nouveau se portant en avant, Ouroz le retint d'une main si cruelle que l'étalon se dressa de toute sa hauteur pour hennir. Une expression impitoyable accusa chez Ouroz la saillie des pommettes et le creux des joues. Ce n'était pas une bride ou un mort qui lui avait enseigné à jouer, comme il le devait et selon ses moyens, le jeu du Muscacci, mais la leçon de Toursenne. Quand Allah refuse la puissance aux bras et aux épaules, il compte sur la cervelle du cavalier. Ces mots, après tant d'années, couvraient le tumulte sauvage. Et la voix de Toursenne, pesante, insultante, ajoutait comme elle l'avait fait autrefois aux paroles dites, les paroles pensées. « Pauvre avorton que tu es, regarde mon corps et regarde le tien. Pourquoi prétends-tu courir le jeu à ma façon ?» Humiliation atroce et combien profitable. « J'ai compris, j'ai tout compris alors, » dit Ouroz, sans savoir s'il s'adressait à l'étalon, à lui-même ou à son père. Un élan furieux et confus déplaçait vers lui le tourbillon des hommes et des chevaux. Il obligea encore Géole à reculer et parla de nouveau. C'était moins aisé, dit-il, que de se faire piétiner, écraser, déchirer, comme cela. Ouroz aspira profondément l'air du haut plateau qui portait pour la première fois une odeur de sueur, de cuir vivant, de peau blessée, l'odeur du Muscacci. Il se souvint des rires et du mépris qu'avait accueilli d'abord son refus obstiné du combat en troupeau. Il avait passé outre, ménagé ses muscles et son souffle, guetté comme un loup, comme un faucon, l'instant propice. Le cavalier solitaire près du but, et alors, frais, sur un cheval dispos, maître de ses nerfs, forcé, attaqué, gagné, toujours, partout. Rieur et insulteur s'étaient tus depuis longtemps. Sa prudence était entrée dans sa gloire. Les cuisses d'Ouroz pressèrent brusquement les flancs de Géole. Ses paupières frémirent sur les yeux aigus qui ne cessaient de surveiller le combat. La mêlée avait reflué du côté des tribunes. « Ils n'en finissent pas aujourd'hui, » se dit Ouroz, d'autant plus enragé qu'ils sont sous le regard du roi. Dans le même instant, il se dit, « Ce regard, il est sur moi également, sur moi qui me tiens en retrait, bien à l'abri, semblable à un chien chétif, effrayé de la meute. » À Maïmana, à Mazar-i-Sherif, au Cataclan, cela ne tromperait personne, on y sait qui je suis, mais pour tout cela, les princes, les notables et les seigneurs étrangers venus des terres les plus lointaines, pour le roi, qui donc est Ouroz ? Un quoi ? Et c'est tout ? La main d'Ouroz se crispa furieusement sur le manche de sa cravache, un seul coup, et il disparaissait au plus épais du tourbillon. Il porta la lanière à sa bouche et en mordit le cuir. Il ne céderait pas à une fausse honte. Il mènerait son jeu à sa manière. Et quand il jetterait dans le cercle de justice le trophée pour lequel se déchiraient ces imbéciles, et que jaillirait de sa gorge le cri le plus beau du monde, « Halal, halal !» alors, et les étrangers, et les princes, et le roi seraient bien forcés de le reconnaître. « Patience, patience !» dit Ouroz à Géole, qui pourtant ne bougeait plus. « L'un devait s'échapper, je le sens. » Quelques instants plus tard, il crut que c'était fait. Au cœur de la mêlée, l'un des joueurs surgit, accroché contre sa monture dressée à la verticale, et par-dessus la crinière, il brandissait la carcasse du bouc déjà vidé à moitié de sang et de substance. 20 démons aux traits tordus par le désir et l'effort, les bouches déchirées par leur ululement, le cernèrent aussitôt sur leur bête cabrée, et chacun d'eux tendait vers lui des mains pareilles à des serres énormes. Mais le cavalier qui tenait la dépouille velue était si grand et son cheval si haut que les autres ne pouvaient atteindre la proie. Ils lacéraient, assommaient en vain du tranchant ou du pommeau de leur cravache les poignets et la figure du géant. C'était Marsouble terrible, célèbre entre tous les Chopendos de Mazar-i-Sherif pour sa force légendaire, sa taille immense, sa vaste fortune et ses chevaux superbes. Marsouble ne lâchera point, Marsouble passera, se dit Ouroz. Sans s'apercevoir tellement l'attente lui était insupportable, qu'il faisait vœu pour la brute, le fils de riche dont il détestait le nom plus que tout au monde. Il conseillait, dirigeait, ordonnait dans l'esprit. « Va, va, Marsoud, frappe, frappe donc de ton poing gauche. Tu es si fort que tu vois jeter balle une deux qui te sert de plus près. Puis rabat ton cheval et frappe encore et saute et trou, baisse et passe. Va, Marsoud, va !» Le colosse trop long, trop lent, trop lourd sans doute, ne manqua la manœuvre que d'un instant. Et de cet instant, les démons qui l'entouraient profitèrent. 10 bras s'accrochèrent au sien, 10 à la bride, à la crinière de son cheval. Le poids de ses grappes humaines fit retomber Marsoud à la hauteur des autres. Il disparut sous les assauts. Enfant de truie, cerveau de mulet, tout est à reprendre, gronda Rose. En même temps, il pensa, Toursen à ta place. Il revit, comme il l'avait vu tant de fois, son père, dressé sur la vague des bonnets fourrés, des crinières sauvages et des cravaches crépitantes, le défi et l'outrage à la bouche, le bouc décapité au poing, et qui, lui, toujours, faisait sa trouée. Et la vieille et brûlante admiration lui emplit le cœur, et, impossible à supporter, la souffrance d'être le fils du grand Toursen, de poing l'égalé, et Ouros se dit, mais lui, toujours, il a eu un géol, et tout de suite après, mais en ce jour, j'en ai un aussi. Alors, sans le savoir tout à fait, il avait obligé son étalon à reculer encore. Sans le savoir tout à fait, les reins tendus, les genoux frémissants, il s'était penché sur l'encolure, ses yeux étroits, réduits à une fente, pour mieux situer du regard la sombre tache poilue qui passait et repassait de main en main entre les flancs des chevaux, devant leurs naseaux et sous leur ventre. Le ululement solitaire d'Ourose résonna tout à coup aigu et long comme celui du loup en chasse. Géol, poussé de l'éperon et de la cravache, se rua vers la mêlée. Aucun des Chorendos ne s'attendait à cet assaut par derrière, à ce coup de bélier, de boulet. Ourose fendit leur masse d'un seul élan, et parce qu'il avait visé juste, se trouva à portée de la dépouille sans tête. Il s'en saisit au vol, l'arracha, et ainsi qu'il l'avait exactement calculé à l'avance, fit cabrer, volter Géol, et à travers la brèche mal refermée encore, s'échappa. Aussitôt résonna derrière lui le galop effréné de la poursuite, et Ouros sut que, malgré l'excellence de Géol, il serait rejoint. Il ne pouvait pas ne pas l'être, même s'il arrivait avant tous au premier mât que devait contourner la dépouille du bouc. Il trouverait fatalement sur son chemin, en sens inverse, vers le deuxième poteau, les cavaliers qui auraient coupé au plus court. À quoi bon alors se dépenser, s'épuiser dans une course inutile, stupide? Il venait de faire éclater sa valeur à tous les yeux, cela devait suffire. Il fallait maintenant ralentir le train, abandonner le bouc après un simulacre de lutte et reprendre le guet jusqu'au détour le plus favorable, ainsi le voulait l'exigence de la victoire. Mais une autre, plus ancienne, habitait maintenant Ourose et s'était appliquée à la maîtriser, la dompter à jamais par 20 ans de dressage. Or, pour lui avoir accordé un seul instant de répit, de pouvoir, il sentit que la violence de sa jeunesse, pareille à une fronde soudain libérée, le lançait malgré lui, droit en avant, comme une pierre aveugle. Au lieu de retenir Géol et laisser à d'autres, avec la carcasse du bouc, les accrochages, les assauts, la fatigue, les blessures, grosse cravache suspendue par la lanière à ses dents serrées, la viande et la toison chaude coincées entre la selle et la cuisse, poussait des genoux, de l'éperon et de sa clameur, les talons dont il partageait la furie et le bonheur de courir. Quelle délivrance que de rejeter soudain hors de soi attente, patience, prudence, calcul mûrement réfléchi et ne plus être muscle, nerf et sang que vitesse, acharnement et passion. Va, Géol, va mon prince, va mon roi, nous sommes les plus rapides, nous sommes les plus forts. Ainsi criait, ainsi chantait Ouros d'une voix qui n'était plus la sienne, mais celle d'un démon ressurgi des limbes et qui tout puissant l'emportait. Et Géol arriva le premier à la hauteur du mât. Et parmi les Chopendos du Katagan, qui, plus petit et léger que les hommes de Mazar-i-Sherif ou de Maïmana, et montés sur des chevaux plus fins et plus prompts, ressemblaient sous leur casaque blanche rayée de vert à un essaim de guêpe. Parmi ceux-là même, les plus rapides ne suivaient Ouros que de loin. Il fit au galop le tour du mât et agita la dépouille comme un étendard pour bien montrer aux chefs de Mouskachi des trois provinces, aux délégués du roi, à la foule enfin, que le bouc avait franchi la première étape. Après quoi, la carcasse écrasée de nouveau sous sa cuisse, il piqua vers l'ouest pour essayer d'atteindre l'autre mât, distante d'une bonne lieue. Là, Ouros vit venir à sa rencontre ceux des cavaliers qui, plutôt que de s'acharner à une poursuite vaine, avaient préféré lui couper le chemin du retour. Ils étaient 20 pour le moins. Quelle espérance Ouros pouvait-il avoir de traverser la meute qui se rabattait sur lui? Il essaya pourtant. Et comme si la dépouille molle, mouillée, sanglante, dont il sentait la toison contre sa cuisse, lui était devenue plus précieuse que sa propre existence, il mit au service de cette peau velue d'où suintaient la graisse et les entrailles tout ce qu'il savait, tout ce qu'il était, l'agilité, la rapidité surprenante qu'il avait au temps de sa jeunesse et qu'il gardait intacte, la force durcie, serrée de l'âge mûr, un art sans égal d'acrobate, l'expérience méditée, nourrie, enrichie dans chaque épreuve par 30 années de jeu, et enfin, cette ardeur enivrante qui, en ce jour, soudain, le portait. Les trois vieux chefs de Buscacci, à le regarder faire, hochaient la tête et caressaient leur barbe grise avec admiration. Jamais ils n'avaient vu Ourose jouer de la sorte. Et dans leur longue mémoire, ils ne se souvenaient pas d'un joueur aussi étonnant. Ils chargeaient, se dérobaient, feintaient, fuyaient, revenaient, glissaient entre ses adversaires. Ils jetaient bas les uns, échappaient aux autres, tantôt couchés sur le flanc droit de son étalon et tantôt sur le gauche, ou tout droit contre son encolure quand il était cadré, ou invisible sous son ventre, il défiait les attaques, déjouait les ruses et sans jamais lâcher le bouc, allait de l'avant. Géole l'aidait d'une façon merveilleuse. Ce n'était pas seulement par la vitesse et la force qu'il l'emportait sur les meilleurs chevaux, mais davantage encore par son intuition et son intelligence du jeu. Il ne se contentait pas d'accomplir chaque volonté, chaque indication d'Ourose. Il dépassait toujours de son maître la meilleure espérance, en puissance comme en habileté, en choc, détente, comme en esquive, feinte, astucieuse ou crochet imprévu. Mieux encore, on eût dit que souvent, il ne suffisait plus au cheval de satisfaire les désirs d'Ourose dans toute leur exigence, ou même de les deviner, de les prévenir. Il inventait les passes, il jouait pour lui-même et par lui-même, et d'un infaillible instinct. « Tu es un grand Chopendos, ô Géole, pensait alors Ourose. Mais les feintes, si elles leur permettaient de s'échapper, les obligeaient aussi à ralentir, à détourner leur course. Le gros des cavaliers les rejoignit pour les prendre à revers. La clameur, le souffle de la horde était déjà sur eux. Il leur fallait percer dans l'instant même. Qui donc eut le sentiment du point faible dans le rideau mouvant des adversaires qui leur barraient la route en avant et choisit le fragment de terrain tenu seulement par deux cavaliers et les moins redoutables, Ourose, Géole, les deux à la fois, Ourose n'eut pas à toucher les talons. Les deux Chopendos couraient à leur rencontre, non pas de front, car leurs chevaux ne pouvaient pas arrêter et soutenir la charge d'une bête beaucoup trop vigoureuse pour eux et trop prompte, mais chacun à côté, afin de saisir, d'accrocher Ourose et sa monture. Ils atteignirent leur proie ensemble, avec un hurlement de victoire. Juste à ce moment, Géole se dressa tout droit sur ses sabots arrière, tourna sa tête hennissante vers l'ennemi de gauche et lui broya la main entre ses dents, tandis qu'Ourose, comme détaché de l'étalon, levé sur ses étriers, frappait le manche de sa cravache l'autre Chopendos en pleine poitrine et le désarçonnait. « C'est moi encore qui porterai le bouc autour du second mât, » pensa Ourose. Un mur de chair et de muscles surgit tout contre lui. Ourose leva la tête et trouva bien au-dessus des siens les yeux de Marsouble terrible, fente réduite à un fil dans un visage si large et si plat qu'il semblait inachevé, et les yeux de Marsoude, qui savait dans quel dédain Ourose le tenait, exprimaient le sauvage bonheur d'une haine qui va s'assouvir. Avant que Géole ait pu faire un mouvement contre le cheval qui bloquait son chemin et qui par la taille et la densité le valait, Marsoude abattit une paume énorme sur la nuque d'Ourose, le souleva de celle comme s'il était un pantin de son, et ayant saisi de sa main libre la carcasse du bouc, s'écria « Ah, tu te décides enfin à jouer comme tout le monde, alors voilà, triste avorton !» Le géant laissa choix Ourose, et prona, fouetta sa monture, et partit au galop dans la direction du mât. Vide, stupide, privé de tout sentiment, de tout réflexe, Ourose regardait courir Marsoude. Une crinière effleura sa joue. Les yeux humides, étincelants, impatients de Géole, étaient fixés sur lui. Ourose frissonna. Il avait été jeté, et de quelle manière, d'un cheval sans pareil. Il avait perdu l'honneur devant son étalon. Une autre pensée lui vint encore, plus atroce. Jamais Tourcelle. Un bond de tout jeune homme le porta en selle. Ses éperons fendirent les flancs de Géole, sa cravache les lacéra. Il ne courait plus après le bouc, mais le sang de Marsoude. Le géant n'était pas loin encore. Il avait dû se débarrasser au passage de trois cavaliers du Catalan qui l'avaient l'un après l'autre accroché. Ils étaient petits, légers, mais violents et tenaces. Chaque rencontre avait pris du temps à Marsoude. Maintenant, il filait droit vers l'ouest, le rejoindre. Ourose savait qu'il le pouvait sûrement. Son cheval, aussi puissant que le cheval poursuivi, était beaucoup plus rapide. Et lui, il pesait deux fois moins que Marsoude. et n'avait pas d'égal dans les steppes pour tirer d'une monture toutes ses ressources. Il eut vite dépassé tous les chopados et respira mieux. Quand il atteindrait Marsoud, il devait être seul. Il ne fallait pas d'autre corps, homme ou bête, capable, dans la mêlée, de gêner, d'amortir son exigence, sa rage de meurtre. Voilà, c'était fait. Plus personne de lui à Marsoud, et la distance fondait, fondait. Soudain, il fut sur le point de retenir Géol et de renoncer à la poursuite. Qu'allait-il faire une fois Marsoud rejoint? Le tuer comment? À quoi pouvaient servir ses mains, sa cravache, contre le géant de Mazar-i-Sherif? À quoi avait-il un couteau, comme on emportait les Chopendos au temps ancien, impitoyable quand il était permis de taillader les rênes et les sangles? Cependant, Géol forçait encore son galop. La proie était à sa portée. Il jouait de nouveau pour lui seul. Ourose sourit de son rictus de loup. Géol était l'arme la meilleure. Pour s'en servir, il n'eut pas à penser. L'instinct le fit à sa place. Du côté droit, celui où il voyait Marsoud, il libéra sa jambe, puis vida la selle, puis tenu par un seul étrier, accroché à la crinière et collé, aplati contre le flanc gauche de Géol. Il poussa dans l'oreille de l'étalon, au creux même, le cri le plus strident, le plus dément qu'il put arracher à sa gorge. Un bond énorme enleva Géol. Ourose hurlait, hurlait, sans répit. En même temps, il orientait cette charge de façon à prendre le cheval de Marsoud en biais pour que, à l'instant du choc, l'épaule de Géol le frappa à la jugulaire, de plein fouet, comme un boulet. Il tombera net, et Marsoud avec lui, et son ignoble corps, paquet de gros muscles, sera piétiné, meurtri, déchiqueté, mis en pupe à coup de sabre. Ainsi pensait Ourose, et son cri dans le tympan de Géol se faisait toujours plus aigu. Marsoud l'entendit, il tourna la tête, et lui, le terrible, il prit peur. Ses naseaux et ses yeux dilatés, fous, cette bête ensauvagée, enragée, qui venait sur lui, sans cavalier, de son propre élan, de sa propre fureur. Marsoud, pour amortir le choc, tendit le bras qui tenait la dépouille du bouc, et ce bras était si lourd et large et dur qu'il dévia la course de Géol. L'espace d'un instant. Et dans ce même instant, Ourose se dressa sur sa selle, et d'un coup de sabote au talon effilé, brisa net le poignet de Marsoud. Les doigts se détendirent, la peau du bouc leur échappa. Ourose s'en saisit au vol, relança Géol, tandis que Marsoud considérait sa main tordue selon un angle étrange, impossible, et sur laquelle il n'avait plus de contrôle. Ourose porta le trophée autour du second mât. Au débouché l'attendait à nouveau la meute des Chopendos. Cette fois, sauf les blessés et les estropiés dont les chevaux erraient à travers le plateau et qu'appelaient à grands cris les saïs, ils étaient tous devant lui. Tous dévorés par une passion qui touchait à l'extrême limite de la fureur, on arrivait à la dernière partie de l'épreuve. Désormais, celui qui détenait la dépouille, s'il avait la force, l'adresse ou la chance de toucher par n'importe quel trajet le cercle de justice, deviendrait le vainqueur du Bouscatchi royal. Et recommença la mêlée par où s'était ouverte le jeu. De nouveau, la peau de bouc alla, flotta de main en main entre les chevaux carrés, dans un tourbillon de hauts bonnets, de crinières, de cravaches, de faces couvertes de sueur, déchirées par des morsures du cuir et du plomb. Et un cavalier finit par s'échapper, et ce n'était pas Ourose. Et lui, comme tous les autres, il courut à sa poursuite. Et comme les autres, il fut de chaque chasse, charge, accrochage, assaut. La dépouille revenait entre ses doigts, était enlevée, revenait, s'échappait encore. Cela ne comptait plus pour lui. Il n'avait qu'un désir, frapper, frapper, sans fin. Poursuite et recul, passe et crochet, rencontre singulière et choc de masse. La troupe hurlante avançait tout de même vers la ligne de chaux vifs qui cernait le but. Ils l'aperçurent enfin, qui brillait au soleil. Un Chopendos de Maïmana, dans cet instant, avait le trophée. Il tenta sa chance, essaya de percer. Un cavalier du Katagan surgit sur son flanc, arracha le bouc et continua au galop dans la même direction. Encore quelques foulées, et il serait à portée du cercle de justice. Mais sur son chemin, un cheval démonté qui courait au hasard lui fit perdre quelques secondes par le détour auquel il l'obligea. Quand il en sortit, une douzaine de Chopendos lui interdisaient le but. Il entendit le galop de ceux qui voulaient l'envelopper, le priver de sa proie. Il ne pouvait pas l'accepter. Ayant été si près de la victoire, il piqua droit devant lui, arriva face aux tribunes. La horde le talonnait. Comment lui échapper ? Sauter par-dessus le trou béant qui protégeait les camps de tente. Les invités d'honneur virent si bien dans les yeux élargis et hagards se lever ce désir qu'ils se tassèrent sur les gradins. Au dernier moment, le cavalier à la tunique blanche rayée de vert sentit que l'ampleur du fossé défiait toute espérance et que le bon, le mieux conduit réussirait seulement à faire contre la paroi de béton éclater ses os. Alors, il galopa le long de l'obstacle, la troupe entière des Chopandos derrière lui. Au vent de leur course, à leur visage, à leur cri, les gens des tribunes sentirent que, s'ils l'avaient pu, ces cavaliers des steppes eussent piétiné leur roi lui-même pour un lamentable chiffon velu. Quand le Chopendos poursuivi eut dépassé la file des pavillons d'honneur, il se trouva devant une muraille de camions couverte d'hommes sur qui flottaient comme des milliers d'ailes les pans de leurs turbans agités par la brise. Il n'y avait que deux issues pour le Katagani. Sur sa gauche, la bordure du plateau, où il ne pouvait manquer d'être acculé contre les lourds véhicules. Et sur sa droite, un étroit et bref passage qui menait à la route de Kaboul. Il y déboucha. Elle était occupée dans toute sa largeur par le convoi royal. Le Katagani passa entre les rangées de voitures, sauta par-dessus la dernière file et se trouva devant la colline qui, au bord du plateau, était chargée d'un peuple immense et semé de baraques, de tentes, d'éventaires, d'énormes samovars en cuivre. Le Chopendos ne prit pas le temps de réfléchir. Un appel d'éperon, un sifflement de cravache et son cheval s'enfonça dans la foule. Les autres cavaliers n'avaient pas hésité davantage. La charge balaya la colline. Fruits, samovars, éclats, bois, turbans, sandales volèrent dans son sillage. Pour les hommes, ceux que les chevaux ne touchaient pas, les fuyards les renversaient. La clameur suspendue sur la colline, faite de cris d'épouvante et de hurlements inhumains, semblait la plainte de la terre et du roc. Rose n'était pas de la horde. Sa rage brute avait-il eu le temps de l'épuiser? Ou bien était-ce d'avoir reconnu le visage en haut relief sur fond de velours rouge? Devant la tente royale, Rose se trouva subitement rendu à lui-même. Il modéra l'allure de Géole d'une main savante, et quand toute la troupe des Chopendos s'engouffra dans le passage qui menait à la colline, il ne la suivit point. Là-bas, prise de peur, la foule hurlait et hurlait, où Rose tourna bride. Dans le désordre où des milliers et des milliers d'hommes s'entrechoquaient au hasard, il n'y avait aucune chance pour personne de rattraper le Katagani. C'était au pied de la colline qu'où Rose devait attendre, l'attendre, le surprendre, embusqué derrière la ligne des tentes d'honneur et le fossé qui les couvrait. Le détenteur du bouc était obligé de passer là, à sa portée, pour gagner le cercle tout proche de chaux étincelantes. Aux alentours, il n'y avait qu'un Chopendos énorme, le bras soutenu par une écharpe rouge, et qui faisait aller et venir sa monture, sans but, en spectateur, Marsoud. Terrible pour personne, se dit Ourose avec indifférence. Il était revenu à son état habituel. Les hommes ne représentaient pour lui que les éléments du jeu. Il se courba sur l'encolure de Géole et l'incita d'un effleurement à se tenir prêt. Et tout se passa comme il l'avait prévu. Le Katagani dévala sur la route de Kaboul, la franchit d'un bond, fonça vers le but, où Rose jaillit de son embuscade. Et avant que le cavalier eût compris qui était l'assaillant, ni d'où il sortait, et avant que le premier des autres Chopendos ait eu le temps de le rejoindre, l'épaule de Géole heurtait d'un coup terrible la monture du Katagani. L'homme à la blouse rayée de vert chercha à revenir en selle. Entre ces deux mouvements, Ourose avait saisi le trophée et courait, seul, vers le but. Il l'atteignit, s'arrêta sur le bord éclatant du cercle de justice, leva haut le bras qui tenait les restes du trophée. Il ébaucha le geste du lancer et le cri délirant d'Alal déjà était dans sa gorge. Alors, une main massive accrocha également la peau velue, une main qui sortait d'un juste au corps couleur de rouille, couleur de Mazari Sherif, la main gauche intacte de Marsoud. Elle ne fut pas capable de bloquer Ourose, mais l'accompagna, le doubla dans le mouvement qui abattit la carcasse au milieu du put. Il y eut un instant de désarroi, de silence, et puis d'un même élan, les Chopendos de Maïmana et ceux de Mazari Sherif poussèrent leurs chevaux, meurtris, noirs de sueur, blancs d'écume, devant la tribune du roi. Et 40 cavaliers, tous ensemble, se mirent à interpeller avec des cris sauvages le souverain par-dessus la tranchée de béton. Et leurs cravaches sifflaient dans leurs poings. Ceux qui portaient les pourpoints couleur de rouille et ceux dont les casaques étaient marqués de la peau blanche en forme d'étoile exigeaient d'une même violence que la victoire leur fut attribuée. « C'est nous qui avons gagné !» hurlaient les Chopendos de Maïmana. Le bazar n'a fait qu'effleurer la carcasse et au tout dernier instant, chien, voleur, impudent s'effronté. « Honte et mensonge !» clamaient les gens de Mazar et Shérif. « C'est le terrible qui tenait vraiment le bouc, c'est sa main qui l'a jeté !» Les chefs de Muscatchi de chacune des provinces, vénérables par l'âge et par le rang, se défiaient de leur fouet brandi. La poussière soulevée par les chevaux entrait à flots épais dans la tente du roi. À travers elle, il voyait les figures brutales, convulsées, déchirées, effroyables, masques de boue et de sang qui hurlaient, défient, injures et blasphèmes. Le roi leva la main et tout fut silence. Et il dit : Selon la loi de justice, je décide le partage. Qu'un demi-honneur aille à Maïmana et un demi à Mazar-e-Sherif, et que reprenne le jeu. Et Chopendoz attendait. Il fallait quelque temps pour égorger un nouveau bouc et lui trancher la tête. Des cavaliers, les plus riches, employaient ce loisir à changer de monture. D'autres, pour étancher leur soif, bordaient goulûment dans la tranche de pastèque ou la grappe de raisin que leur tendait leur saïs. Certains, allongés, la bride passée au creux du bras, fumaient en groupe. Chaque chef de Douskachi exhortait du haut de sa selle les gens de sa province à ne plus jouer comme ils venaient de le faire en loups isolés, mais à oublier leur propre gloire pour celle de leur morceau de steppe et courir en équipe. Rose sur Géol se tenait à l'écart, tandis que Moki bouchonnait les talons. Ses yeux étaient fixés sur les neiges des montagnes. Loin derrière ces crêtes, très loin, se trouvait le domaine d'Osman Bey. Juste ou pas juste, la décision royale, qu'importait, elle ne l'empêcherait pas de planter devant Toursen l'étendard du roi. Deux soldats passèrent, qui traînaient un bouc décapité. La carcasse avait fait le tour des deux mâts, la mêlée se livrait à 1500 pieds du but. Le cavalier qui s'en échapperait avec la dépouille avait le droit de tout espérer. Rose surveillait le combat à bonne et juste distance, il avait joué plus serré que jamais. Il s'était contenté d'enlever, sans péril ni gloire, le bouc à des cavaliers isolés, et, rejoint, n'avait jamais livré un combat véritable. À présent, il sentait venir dans tout son corps des étrios rennes, espèce de fièvre à froid qui le rendait si dangereux. Rose voyait à la fois le village azur et rose qui arrêtait au nord le plateau de Bagrami, et les collines du sud couvertes d'étoffes flottantes, et les gradins où siégeaient les aérchats parmi ses hôtes, et les soldats et les policiers à pied ou montés, et jusqu'au ciel pur, léger des montagnes, au fond duquel le soleil achevait sa course, plus brève à cette altitude que dans la plaine. En même temps, il ne perdait pas de regard, fût-ce pour une fraction de seconde, l'assaut le plus brutal du jour. Et Chopendoz savait que sans doute il n'y en aurait pas d'autre. Et Rose, comme cela lui était arrivé plus d'une fois, se demandait pourquoi ces mêlées ne duraient pas indéfiniment. Dans le flot des épaules, des poitrailles et des croupes, tous les adversaires se valaient, tous leurs chevaux aussi. Et pourtant, toujours, l'un d'eux, tout à coup, trouvait la peau velue, se rétablissait en selle, se frayait un passage, repartait au galop. Qui donc, dans cette rencontre, serait celui-là ? Fût-il de sa propre équipe où Rose était résolue à ne pas laisser vainqueur ce cavalier ? Personne d'autre que lui n'avait le droit, en ce jour, de pousser la clameur sacrée « Halal, halal !» Et voici que la horde, qui semblait à jamais enchevêtrée, enroulée sur elle-même, se fendit brusquement. Et un Chopendoz apparut dans le passage qu'il creusait en lançant son cheval à droite, à gauche, et frappant de toutes ses forces, de tous côtés. Une feinte d'une adresse et d'une promptitude étonnante le dégagea de la dernière rangée qui le séparait l'espace libre. Il jaillit soudain, collé, couché contre le flanc gauche de son cheval, pour que la bête lui servît de masque, de couverture contre ses poursuivants. Tandis que sa main libre traînait au ras du sol la veule chair velue, il atteignit le terrain vide qui s'étendait jusqu'au cercle tracé à la chaux et jeta son coursier vers le but, avec un long cri inhumain dont la stridence était celle des victoires. Il suffit à Rose de lâcher les rênes. Géol était frais de nouveau. Le tumulte et les senteurs de la mêlée dont son maître l'avait frustré une fois de plus lui enflammaient le sang et donna toutes ses forces. Le cavalier de Mazar-e-Sherif alors pressa d'une cravache impitoyable son cheval. Le but était si près, en vain. Le grand étalon était beaucoup trop rapide pour sa monture. En quelques foulées, il fut à sa hauteur. Un galop frénétique les emporta côte à côte. Et Ouroz exécuta enfin le mouvement pour lequel il se préparait depuis qu'avait commencé la poursuite. C'était la passe majeure, la plus belle et la plus difficile dans tout le jeu du Buscacci. Au plus vif de la course, il bascula dans le vide et retenu, prodige d'équilibre, par la cheville à un seul étrier, il resta une seconde suspendu, les bras projetés devant lui. Il avait visé juste, ses mains rencontrèrent la dépouille du bouc, la grippèrent, et leur vigueur multipliée par le poids et l'élan de la chute arrachèrent, emportèrent le trophée. Il ne restait plus à Oros qu'à se remettre en selle avec sa proie et courir au but. Ce rétablissement était familier à tous les Chopendos d'élite. Oros passait pour le meilleur. Subitement, comme il se redressait, il sentit qu'il perdait tout pouvoir sur ses muscles et flottait, maladroit, débile, impuissant. Il ne comprit pas d'abord. Un étonnement stupide s'empara de lui quand il se rendit compte qu'il était à terre, la face écorchée par les herbes sèches, traînée comme un paquet. Pourtant, son pied tenait encore à l'étrier. Il lui suffisait d'y prendre appui, saisir la crinière de Géol, se hisser. Mais entre le pied et le genou, il n'y avait plus communication, échange. C'était donc plus grave qu'une entorse, qu'une foulure, une atteinte aux ligaments ou aux muscles. Rose en avait connu plusieurs, et jamais cela ne l'avait empêché de sauter à cheval et gagner. Quoi alors? Et comment? Et pourquoi? Rose n'eut pas le loisir de réfléchir plus avant. Géol s'était arrêté net, et la secousse avait libéré de l'étrier le pied de Rose. En même temps, dans son crâne, lui sembla-t-il, retentirent les sabots de dizaines de chevaux et une tempête de hurlements sauvages. Les équipes du Katagan, de Maïmana et de Mazari Sherif se jetaient ensemble sur la dépouille qui continuait à tenir. « Je vais être réduit en viande inerte par la charge, se dit-il, comme cette peau de bouc. » Il ne pensa pas un instant à lâcher le trophée et il ne ressentit aucune crainte. Il n'avait peur de rien, mais surtout pas de la mort. « C'est la fin, » pensa-t-il, « et encore ?» Cela rappellera à Toursen le temps dont il est si fier, quand il n'y avait pas un vrai Buscacci sans un cadavre de bon Chopendos. La horde ululante, délirante, fondit sur Ourose. Elle ne put l'atteindre. Géol s'était placé au-dessus de lui et le gardait à l'abri entre ses jambes, comme entre de frémissantes colonnes. De la croupe, du poitrail, des sabots, des dents, il le défendait. Et Ourose serrait, plus qu'il ne l'avait jamais fait, la peau du bouc. Cela ne pouvait pas durer longtemps. Ses doigts furent écrasés par les manches des cravaches. Des mains de cavaliers suspendues sous leurs selles passaient entre les jambes de Géol, happaient aux roses à la ceinture, aux cheveux, tandis que d'autres tiraient avidement sur la dépouille. Un Chopendos arracha le trophée exsangue, hirsute, vidé. Les autres se jetèrent devant lui. Alors seulement aux roses connut la honte de la défaite et sut qui lui survivrait. La plainte monstrueuse d'une sirène s'éleva quelque part, s'enfla, approcha. Une ambulance sur laquelle flottait le fanion du croissant rouge emmena le Chopendos. Du côté du cercle de justice, une voix enrouée, enivrée, criait, folle de son propre cri, « Halal, halal !» Rose cogna furieusement sur sa jambe rompue pour que la souffrance l'empêchât de penser. Les malades que la fièvre ou la souffrance empêchaient de dormir eurent vers le milieu de la nuit une étrange vision. Le Chopendos du coin de la salle se levait à demi nu, se traînait avec sa jambe plâtrée jusqu'à la fenêtre, l'ouvrait, se penchait dehors et disparaissait. Moki déposa doucement Ourose sur la selle. Ourose prit les rênes. Ils traversèrent la grille du parc entrebâillé. Les hommes de garde étaient à l'intérieur de leur pavillon. Quand ils eurent dépassé la longue clôture qui fermait le parc de l'hôpital, Moki demanda « Tu crois qu'ils vont te poursuivre ?»« Sans doute, » répondit Ourose. « Ils ne me rejoindront pas. » Ourose arrêta Géol et dit « Avant tout, il faut casser la mauvaise chance. Va chercher une pierre. » Moki ramena un des gros cailloux dont la route était faite. Ourose tendit sa jambe plâtrée et ordonna « Brise-moi ce petit cercueil. » Moki frappa de toute sa force. La douleur qui boula au rose fut si violente et imprévue qu'il tira sans le vouloir sur les rênes et fit cabrer les talons. Mais l'enveloppe maudite vola en éclats. « Tu trouveras dans ma besace un papier où sont écrites quelques lignes, » dit Ourose à Moki. « Elles viennent du prophète. Un moula de Daoulad Abbas les a recopiées pour moi de son Coran. » Quand Moki eut trouvé la feuille consacrée, Ourose lui dit « Étends-la sur la blessure et attache tout avec ta ceinture. » Ainsi fut fait. Le soleil semblait suspendu au sommet de son orbe jusqu'à la fin des mondes. Les hommes et les bêtes qui cheminaient encore le faisaient d'une démarche accablée. Géol, malgré sa double charge et ses flancs trempés de sueur, avançait du même pas long, rapide et net. À chaque chaïkana que dépassaient les talons, Moki apercevait les voyageurs au repos dans l'ombre de l'auvent, respirait les riches odeurs des brochettes d'agneaux grillés et des œufs frits à la graisse de mouton, entendait le cliquetis des tasses qu'il savait emplir selon les goûts du thé vert chinois ou du thé noir des Indes. Dans tout son grand corps, il avait chaud, il avait faim, il avait soif. Et il se penchait sur l'épaule de Rose avec le désir de crier « Faisons comme tout le monde, arrêtons-nous enfin !» Mais il avait honte de montrer son impatience, sa fatigue à un homme plus âgé, moins fort que lui et blessé par surcroît. Alors il recourait à des ruses qu'il croyait pleines d'astuces. Il disait « Vois, Rose, dans cette chaïkana, ils ont un oiseau qui parle, un merle des îles. » Ou bien « Regarde, Rose, regarde, ce samovar n'est-il pas le plus gros de tous ?» Et encore, les voyageurs du camion arrêtés là, ils doivent en raconter des histoires. Vains efforts. Immobile sur la selle et les lèvres figées, Rose continuait à mener les talons droits devant lui sur la route déserte et brûlante. Pourtant, il souffrait beaucoup plus que Moki de la chaleur et de la soif. Le venin de la fièvre lui enflammait la peau, les entrailles, la gorge. Sa jambe se faisait toujours plus lourde, intolérable. Quand pour la soulager, il glissait le pied dans l'étrier, les os semblaient voler en éclats. Le chiffon qui enveloppait sa blessure était une tache gluante, et la poussière qui l'enduisait n'empêchait pas les mouches énormes de s'y repaître paraissant. À l'approche de chaque chaïkana, du plus profond de sa moelle, s'élevait une prière, gagner la terrasse, échapper au soleil, s'étendre, délivrer la jambe cassée de son poids monstrueux, et boire, boire, boire. D'abord l'eau fraîche gardée dans les jarres, et ensuite le thé noir bouillant, bienfaisant, lourd de sucre. Mais la violence même de la supplication que sa chair lui adressait interdisait à Rose de la satisfaire. Mieux, il éprouvait une jouissance féroce à rejeter, insulter cet appel intérieur. Plus brûlante que tous les feux réunis du ciel et de la fièvre, l'exigence le poursuivait de montrer à son corps, et quel que fût le tourment, qu'il n'était pas le maître, et de le tenir en selle, supplicié, sans miséricorde, indéfiniment. Une montée, une descente, une montée encore. Rose menait Géole comme si l'éternité s'étalait devant eux. Ils abordaient une pente plus rude. Moki sauta à terre et se mit à marcher près des talons. Mais il a senti que Géole fatigue, se dit Rose. Le pas du cheval restait le même, sans doute, mais il y avait cette légère précipitation du souffle et, à peine perceptible, ce raidissement dans la démarche. Rose serra les dents, il ne cédait pas. Il ne passerait pas de l'univers sans mesure et sans bord qu'il avait atteint par son seul désir à un monde soumis de nouveau à l'asservissement des limites. Il forcerait Géole à continuer comme lui-même, jusqu'à un but qui n'avait pas de terme, jusqu'à la dissolution, l'anéantissement. Et puis, l'instinct le plus puissant de Rose, son éducation, son peuple, sa steppe, tout se railla contre lui. Un homme de Maïmana, un cavalier, un Chopandos, ne pouvait point à une bête aussi noble que Géole, infliger ce traitement. Moki, dit Rose à mi-voix, trouve pour les talons la chaïkana la meilleure. Le charroi recommençait sur la route lorsque Moki fit son choix. Il y avait au bas d'une côte un gros village en forme de cœur que traversait un ruisseau. La pointe du cœur en bordure de la chaussée portait une auberge. Elle ressemblait à toutes les autres, mais une eau limpide courait le long de sa terrasse et irriguait un petit jardin où poussaient quelques saules. Rose y mena les talons, dédaigna l'épaule que Moki lui présentait et se reçut à terre sur sa jambe intacte. « Pas besoin, » dit-il rudement au Pacha qui accourait avec un maigre matelas bourré de coton. Puis à Moki, « Occupe-toi du cheval. » Quand le saïs revint, Rose gisait, parfaitement immobile, le dos à plat contre le sol rougeâtre. Ses bras reposaient le long de ses flancs et, sans le frisson des paupières qui de temps à autre animaient ses yeux fixés, à travers le feuillage d'un saule chétif sur la lumière incandescente, il ressemblait à un mort. Moki fut accablé de honte. Il avait laissé Rose à sa soif, tandis que lui-même se désaltérait à même le ruisseau, goulûment sa tête contre celle de Géole. Il s'écria « Le Bacha, sur le champ, je l'appelle. Personne que toi, personne !» chuchota Rose. Tout visage inconnu, toute voix étrangère lui était insupportable. Dès qu'il avait allongé sa jambe rompue sur la fraîche argile du jardin et disposé tous ses membres en accord avec sa blessure, où Rose avait reçu de la terre et de son appui, du ruisseau et de son champ, de l'arbre et de son nom, un tel bienfait qu'il ne voulait plus rien des autres et surtout de lui-même. « Tout de suite, je te promets, tu auras tout !» s'écria Moki. Il partit en courant vers le fond de la Tchaïkana. « Va, va !» dit Rose doucement. Son vœu, et le seul, était de retrouver aussi vite que possible un bonheur étonnant, le plus exister et le savoir. Mais le corps d'un homme ne se laisse pas dédaigner longtemps, parce que Moki souleva la tête d'Ourose et porta contre ses lèvres craquelées une cruche bleue en terre distalif toute pleine d'eau. Ourose la vida d'un trait jusqu'à la dernière goutte et dit avec brutalité « Encore !» Et quand sa soif fut apaisée, le besoin de nourriture lui tordit le ventre. Il déchira avec avidité les galettes minces, tièdes et tendres que Moki lui offrait, enveloppa de ses lambeaux de pâte les boules grasses de mouton grillé, enfilées sur des brochettes encore brûlantes, les arracha au métal et les dévora comme un loup famélique. Enfin, rassasié, le sommeil le pétrifia d'un seul coup, et dans l'attitude même où il se trouvait, le dos appuyé au tronc du saule, Moki s'installa sur ses talons et commença de manger à son tour. Il ne quittait pas Ourose du regard, et après chaque bouchée, chaque gorgée, hochait la tête avec bonheur, comme il s'était gavé Ourose, combien profond était son sommeil. La lumière et la chaleur s'amenuisaient. Du saule qui abritait Ourose s'élevaient les premiers et incertains pépinements par où les oiseaux invisibles annonçaient la montée du soir. Ourose dormait toujours. Il fallut pour le réveiller le grand bruit que firent des voyageurs qui pénétraient dans le jardin de la Tchaïkana. Ils arrivaient du nord dans une vieille automobile désarticulée et réclamaient ensemble, les uns du thé noir, les autres du thé vert, avec des voix enrouées par les âcres poussières des chemins et les vents glacés qui balaient les cols de l'Inde. Les yeux clos, Ourose étira ses bras, puis sa jambe valide. Enfin, il remua l'autre avec précaution. La douleur s'y répandit aussitôt, mais familière, aménageable, comme une partie de lui-même. Ourose eut un léger soupir de satisfaction. Il se sentait bien, lavé de la fatigue, exorcisé des terreurs et de la honte qu'il avait poursuivi. Sa chute, pensait Ourose, tandis que sur les branches au-dessus de sa tête se répandait plus sonore à chaque instant et mieux accordé le concert des oiseaux. Sa chute, après tout, n'était qu'un accident et banal. Sans doute, elle l'avait empêché de gagner le Buscacci du roi. Mais il n'y en aurait un désormais chaque année. L'essentiel était de rejoindre au plus vite sa province, de guérir. On verrait bien alors. Il était toujours Ourose et il possédait Géol. Les paupières fermées jusque-là se relevèrent et son regard rencontra celui du Saïs qui, accroupi sur ses talons, le veillait. Il dit paisiblement « J'ai eu bon sommeil, Moki. » « Par le prophète, tu peux en être assuré !» s'écria le Saïs. « Et le thé le plus noir, le plus chaud, le plus sucré qui puisse refaire le sang d'un homme, tu vas l'avoir, j'y cours !» Le regard de Rose se tourna vers les cimes géantes et le ciel qu'elle portait. Tout reprenait vie et couleur à mesure que le soleil baissait. Le firmament était une immense vibration bleue, et la lueur vermeille qui flottait sur le flanc des montagnes préparait déjà les hauts pourpres du crépuscule. Mais, habituée à sa plaine sans bornes, Ourose avait peu de goût pour les barrières de pierre. Elle rapprochait et arrêtait l'horizon. Il baissa les yeux et ne fut plus dépaysé. Tchaïkana des steppes, Tchaïkana des vallées secrètes, Tchaïkana des passes vertigineuses hantées par le souffle des pics et des gouttes. Et même quand une eau avare y permettait un frisson de vie, Tchaïkana du désert inhumain, il n'y avait pas de différence entre toutes ces maisons du passant. Chanson légère de l'énorme samovar en cuivre rouge, odeur de la graisse de mouton, arôme de thé, appel des bachas. Rose se sentait à l'aise, chez lui. Et les voyageurs eux-mêmes, assis sur leurs jambes croisées, n'étaient pas complètement étrangers à Rose. Négociant de Kandahar, qui allait acheter les poules d'Astrakhan à Mazar-i-Sherif et les tapis à Maïmana. Il avait rencontré souvent leurs pareils dans ces deux provinces, sous le couvert des bazars, aux terrasses des auberges. Et il reconnaissait leurs turbans noués selon la coutume de leur région et la teinture épaisse du henné sur leur barbe monumentale. Le Saïs revint, ses vastes mains chargées d'un plateau sur lequel rutilaient théière et tasse. Moki s'installa sur ses talons nus face à Ourose. Géol, dit-il, avait plus sommeil que toi encore, il dort toujours. Il a besoin d'un grand repos. Nous reprendrons la route demain seulement, dit Rose. Il examina les paupières de Moki, fripées, enflammées par la poussière, le soleil, l'insomnie, considéra le tchapan qu'il portait, presque en loques et ridiculement court pour sa taille, et songea « grand temps que j'en achète un autre ». Rose, à cette pensée, ne se demanda pas s'il aimait Moki, mais son sourire, pour une fois, ne rappelait point le rictus du loup. Il faisait passer le thé entre leurs lèvres avec des aspirations longues, bruyantes, parce que le breuvage était très chaud et aussi parce que, pris de cette sorte, il le trouvait meilleur. Tout à leur plaisir, ils ne parlaient pas. Le concert des petits oiseaux dans le saule était devenu étourdissant. L'ombre, ménagée par les branches, arrivait maintenant jusqu'aux épaules de Moki. Et les rayons obliques du soleil qui pénétraient sous le auvent de la maison donnaient leur pleine gloire à l'or rouge des samovars, aux enluminures de la vaisselle, aux coloris des images sur la chaux de la façade. Les marchands de Kandahar avaient achevé, payé leur repas. Le propriétaire de la Tchaïkana les vint saluer. C'était un petit vieux très vif que la couleur de son poil, son profil et son œil remuant faisaient ressembler à une souris grise. Il dit « La route maintenant est bonne et sûre, vous serez vite à Kaboul. Ah, c'est une grande pitié tout de même que vous arriviez là-bas d'un jour trop tard. Le grand Bouskatchi du roi s'est couru hier à cette même heure. » Moki, à ces mots, tressauta sur ses talons et ouvrit la bouche. Orose, d'un geste dur, lui ordonna une tranquillité et le silence. Puis, il passa lentement la main sur son front. Était-ce possible? Hier seulement. Le propriétaire de la Tchaïkana poursuivit avec un soupir plein de convoitise. Ah, les bonnes gens à Kaboul, à coup sûr, ne parlent que de cette rencontre. Quel récit ne m'ont-ils pas à vous faire? Le plus âgé des marchands, de qui la barbe la plus longue, passé au aîné le plus riche, s'étalait sur le vêtement le plus opulent, dit alors sur un ton de dignité offensée, « Ils ne m'étonneront pas, soit sans inquiétude, les pauvres. Ils ont dû attendre jusqu'à hier pour leur premier Bouskatchi, tandis que moi. Et celui-là, ils n'en verront jamais de pareil. Dis-nous, homme de bien, oh, dis-nous cela, supplia le propriétaire de la Tchaïkana. Sans attendre la réponse, il se tourna vers la terrasse pour crier « Bacha, oh Bacha, vite, mes coussins, montez, mes gâteaux, ma confiture !» Le gros marchand de Kandahar caressa un instant sa barbe de flamme, comme s'il hésitait. Mais déjà, ses jambes s'infléchissaient lentement afin de lui servir de siège. Ses compagnons suivirent son exemple. Ils ne verraient pas Kaboul à l'heure prévue. La grande affaire, le temps passe, une belle histoire demeure. Tout le nécessaire, tasse, théière, délicatesse et friandise, fut apporté, distribué, offert avec diligence. Les deux bachas éprouvaient autant de curiosité que leur maître. Ayant achevé de servir, ils prirent place à leur tour sur leurs jambes croisées parmi le cercle attentif. Le marchand de Kandahar, toutefois, ne se pressait point. Il avait à satisfaire les rites de la courtoisie et, par surcroît, à exalter l'intérêt de son auditoire. Il savoura donc le thé, les gâteaux au miel, la confiture à la graisse de mouton et en loua son hôte. Puis observa une pause. Puis, des deux mains, suivit les contours de sa barbe ardente. On sut alors qu'il allait commencer. Il y a des années, dit-il, je m'étais rendu à cheval comme tout le monde le faisait alors, dans la province du Nord, pour y choisir des peaux d'astrakhan les plus belles possibles. À Maïmana, ce n'était pas difficile. J'avais pour client le seigneur le plus riche du pays et le plus honnête, Osman Bey. Rose, appuyée contre le saule, et Moki, accroupie sur ses talons, échangèrent un long regard. Osman Bey, entendre si loin de leur steppe ce nom. Le marchand de Kandahar poursuit. Or, en ce temps, Osman Bey mariait son fils le plus jeune, le préféré. Homme de bien, quelle fête! Le conteur leva les yeux vers le ciel et sa barbe ondula comme une flamme sous le vent. Quelle fête! Elles ont duré 7 jours et 7 nuits. Les gouverneurs et les généraux des 3 provinces étaient logés chez Osman Bey, et aussi les chefs des tribus, certains même des grands Kashgaïs étaient venus d'Iran. Et le 7e jour des réjouissances, un beau sketchy leur fut offert. Le but, le cercle de justice, comme on l'appelle là-bas depuis toujours, mais comme vous autres ici le savez seulement depuis hier, se trouvait en face d'Osman Bey et de ses invités les plus illustres. À ses pieds s'entassaient des chapans de soie, des tapis rares, des fusils incrustés d'argent. Plus loin, des bergers surveillaient des moutons d'astrakhan à laine précieuse et des chameaux de haute race par une pompon et une plume. Tout cela, chapan, tapis, bêtes et armes, était destiné aux gagnants du jeu et aux cavaliers qui allaient exécuter les charges et les passes les plus brillantes. Est-ce possible? Distribuer tant de biens? Demanda le propriétaire de la Tchaïkana. Le marchand, pour toute réponse, leva ses larges yeux bruns cernés de kohl vers le ciel. Cette ignorance passait l'entendement. Moki chuchota contre l'oreille de Rose. Il dit vrai, tu sais. Le mariage a eu lieu dans l'année de ma naissance et tais-toi, répondit Rose par le seul mouvement de ses lèvres que la fièvre décolorait. Il ne comprenait donc rien, ce rustre imbécile. N'avait-il pas senti, dès l'instant où avait résonné le nom d'Osman Bey, qu'une force terrible s'était mise en marche et qu'il fallait, de sentence en sentence, écouter, guetter, épier son approche. Avant l'épreuve, continua le conteur, une dizaine de cavaliers vêtus de mauvais tchapan et coiffés d'un bonnet rond à bordure de renard ou de loup sont venus saluer Osman Bey. Ils étaient ces Chopendos. Avec eux se tenait un homme dont l'aspect m'a beaucoup surpris. Il était ridé, gris de poil. Sa démarche difficile montrait que son corps avait été rompu maintes fois. Le visage était tout ravagé par d'anciennes blessures. Parmi les hommes plus jeunes et souples qui l'entouraient, il ne semblait pas à sa place. J'ai demandé à mon voisin, quel âge a-t-il celui-là ? Mon voisin m'a répondu, un âge qui lui permet d'avoir pour fils ce garçon que tu vois avec les Chopendos de notre hôte. Ah bien, dis-je, le vieux ne court donc pas le Buscachi. Comme les autres, a dit le voisin. La seule différence est qu'il monte son propre cheval. Le riche homme de Kandahar, pris au souvenir de sa jeunesse, permit à ses mains un brusque mouvement qui les éloignait de sa barbe ardente. Eh bien, dès la première mêlée, s'écria-t-il, eh bien, par le prophète, ce plus vieux des Chopendos a montré qu'il était aussi le plus redoutable. On le trouvait toujours au plus épais du combat, au plus près de la dépouille du bouc. Et son étalon passait tous les autres en vigueur, en ardeur, en intelligence. Ah oui, mes amis, je vous assure, ce vieux Chopendos était bien beau, bien terrible à voir. Et comme Osman Bey, hôte sans pareil, avait fait sceller pour moi un bon cheval, j'ai pu le suivre durant tout le jeu. Dieu et le prophète en soient loués, dit le maître des lieux. Et ensuite, qu'est-il arrivé ? S'il fallait tout rappeler, je n'interviendrais point, dit le marchand de Kandahar. Beaucoup d'heures et beaucoup de lieux avaient été couvertes, et beaucoup de chevaux galopaient en liberté, dont les cavaliers meurtris étaient couchés dans la steppe, quand le plus vieux des Chopendos s'est emparé du bouc. Il n'a pas essayé, comme tous les autres qui avaient tenu la dépouille avant lui, de revenir en arrière et percer jusqu'au cercle de justice. Il est allé droit devant, et comme son cheval était de tous le plus rapide et le plus résistant, il a emmené au galop la troupe à travers la plaine sans fin. Avait-il déjà arrêté son dessein ? C'est possible. Il connaissait le terrain mieux que personne. A-t-il su profiter d'un hasard propice ? Je ne saurais le dire, mais voici. Une cabane solitaire de bergers s'est montrée brusquement dans la steppe. Et il a contenu sa monture. Les autres Chopendos l'ont rejoint. Alors, pour la première fois, il a cravaché son cheval. Et ils sont partis vers la maison d'un tel galop que j'ai cru qu'ils allaient s'écraser contre elle. Mais au dernier instant, on a vu tout à coup les talons se détacher de terre et s'envoler. Oui, s'envoler, je vous le dis. Et retomber sur le toit plat de la cabane. La gorge du marchand de Kandahar était desséchée tant il avait parlé fort et vite. Il voulut se verser du thé. Sa tanière était vide. Le plus jeune des pachas courut vers le samovar en criant « Par Allah et son prophète, attends-moi pour raconter la suite !» Rose avait les yeux clos, le visage inerte ainsi que le corps. Mais la lanière de sa cravache remuait sous la pression de ses doigts comme un serpent à l'agonie. « Voilà, homme de bien !» dit le pacha en revenant. Le marchand de Kandahar se désaltéra et poursuivit. Il était vraiment extraordinaire le saut que le vieux Chopendos avait obtenu de son étalon. Les cavaliers les meilleurs et portés par les meilleurs chevaux des trois provinces du Nord ont en vain essayé de faire comme lui. Beaucoup n'ont pas su arrêter à temps et se sont fracassés de plein élan contre le mur de la cabane. D'autres ont essayé d'imiter le vieux Chopendos, mais aucune de leurs montures n'était capable de faire ce qu'avait fait la sienne. Et beaucoup encore ont mutilé des chevaux. Et ceux qui parvenaient au ras du toit, le vieux Chopendos, du haut de son étalon, les rejetait d'un coup de cravache au milieu du visage. Et parfois, pour les narguer, il les frappait avec la carcasse velue qui les rendait fous. Ils n'avaient pas gagné pour autant. Des dizaines de Chopendos intacts sur leurs chevaux indemnes encerclaient la maison, comme une meute de loups autour d'une proie qu'elle ne pouvait atteindre encore, mais certaine de la curée. Le fils du vieux cavalier, alors, a crié de toutes ses forces « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Attends !» a dit le père en caressant l'encolure de son étalon couvert d'écume. Oh, mes amis, cette steppe sous le soleil qui descendait, la cabane solitaire, là-haut, le cheval superbe et le vieil homme, avec les cicatrices qui marquaient sa face terrible. Je le vois, s'écria le patron de la Chaïkana. Mais qu'a-t-il fait ensuite ? Il s'est mis à moquer, à insulter ceux d'en bas, et de la sorte, leur faisait perdre la tête. En même temps, il tournait son cheval dans tous les sens, d'un bout du toit à l'autre, comme s'il allait lancer. Et chaque fois, les chopinos en désordre se ruaient du côté où il apparaissait prendre son élan. Et lui, qui surveillait sans répit les déplacements auxquels il les forçait, il a vu soudain que l'anneau de ses adversaires était le plus mince, à l'endroit où se trouvait son fils. Et il lui a crié « Fais-moi un chemin, petit !» Et le jeune homme s'est jeté sur ses voisins sans épargner personne ni lui-même. Il a ouvert pour un instant un trou parmi les cavaliers. Et le vieux Chopinos, dans un saut prodigieux, est passé comme un vent de tempête. Après quoi, il a galopé sans encombre jusqu'à sa victoire. Le marchand de Gandhar se renversa contre son coussin, croisa sur le ventre ses bras que recouvrit le flot de sa barbe cuivrée, et considérant ses auditeurs, tout sauta de plaisir. Il mesurait sur leur visage l'effet de son récit. Après un court silence, ils s'écrièrent ensemble « Béni sois-tu de nous avoir donné ton expérience !» Moki regarda Urose et eut peur. Urose masquait de sa main droite le haut de sa figure, comme pour se protéger du soleil. Mais il n'y avait plus de soleil, le crépuscule était là. « Tu te sens mal ?» chuchota le Saïs. À ce moment, une voix portée à un timbre suraigu par la curiosité couvrit toutes les autres. « Et le nom de ce vieux Chopinos ?» demandait le patron de la Chalkana. « T'en souviens-tu encore, homme de haut mérite ?»« Tant que je serai en vie, je le retiendrai, » dit le marchand de Gandhar. Rose laissa retomber sa main. « C'était le grand Toursen, » dit le marchand de Gandhar. « Le grand Toursen !» s'écria le patron de la Chalkana dévotement. « Le grand Toursen !» répétaient les marchands. « Le grand Toursen !» reprirent les Bachas. Le plus jeune des deux, avec timidité, demanda « Et le fils qui a si bien aidé son père, te rappelles-tu comment il s'appelait ?» Le marchand de Gandhar contempla l'enfant, hocha sa barbe éclatante et dit « Sache, ô Bacha, que la mémoire, pour rester bonne, ne doit pas se charger de noms sans importance. » Les voyageurs se dirigèrent vers leur automobile. Le patron les accompagna, mais les reliefs de la collation furent emportés. Un étrange silence tomba sur le jardin qui prenait sa teinte du soir. Moki se sentit vaincu par la fatigue, il jeta un coup d'œil à la dérobée sur Urose. Ses traits étaient serrés à l'extrême, il avait un regard inhumain. « Je vais dormir contre toi, » dit Moki, « et te tenir chaud. Tu vas sceller, Géole, » répliqua Urose. « Mais tu avais dit, balbutia le Saïs, j'ai dit, va sceller, Géole. » La voix d'Urose était restée basse et tranquille. Mais l'inflexion était sans appel. Moki se dirigea vers le bosquet, près du ruisseau qui abritait les talons. Il avait lentement les genoux fléchis. « Fais vite !» cria Urose. Jamais, il n'avait pensé qu'une souffrance existait comme celle qu'il venait de connaître en ce lieu. Tout maintenant, le jardin, l'eau, les arbres, le tumulte chantant des oiseaux lui était poison. Tout lui enfiévrait le sang, tout lui enflammait le cerveau. Le saule même auquel il s'appuyait lui brûlait la chair. Dans le tronc, dans les ramures, il ne reconnaissait plus les attributs d'un arbre, mais d'un homme, d'un vieil homme noueux, cassé, indestructible, dont on disait les exploits depuis longtemps passés de l'autre côté de l'Hindoukouche, tandis que lui, Urose, au lieu de gagner le premier Bouskachi du roi, il gisait encore, toujours, à l'ombre de son